RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
J'ai les grandes gueules avec vous sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Zora Bitan, qui est intervenante en insertion professionnelle, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, Fatima Hidbounoua, qui est professeur de français. Nos trois sujets de discussion sur lesquels vous allez pouvoir intervenir au 32-16, dans la deuxième heure des GG. Les collégiens, 17% qui ne savent pas nager, est-ce qu'on doit lancer un grand plan natation, un grand plan apprendre à nager? C'est obligatoire, hein? Normalement, oui. C'est obligatoire, mais... À l'école, visiblement, on accepte souvent...
Obligation de moyens et pas de résultats. Hein.
Les dérogations. La canicule, on doit remettre sur le logement. Vous savez, on avait enlevé 700 000 logements qui étaient considérés comme des passoires thermiques. Seulement, on est toujours en manque de logements. Et on envisage de les remettre sur le marché. Les remettre sur le marché alors qu'on a les phases de canicule. Est-ce que... On doit interdire les bouilloires thermiques à la location. 32-16 pour en parler avec les GG. D'abord, on va revenir sur l'affaire Liana. Pardon, c'est vrai que c'est devenu un dossier, en fait, l'affaire Liana.
Ah,
il faut rappeler quand même que c'est une petite fille de 11 ans qui a été tuée.
Elle
a
été violée,
tuée. Son assassin présumé est toujours en détention provisoire. Il s'appelle Jérôme Barella, son nom vous le connaissez. Et pour le moment, il n'a toujours rien dit. On attend que l'autopsie détermine les causes de la mort. Depuis la mort de la petite Liana, on a entendu beaucoup de réactions politiques. On a notamment le Premier ministre hier qui a dit à partir de la rentrée septembre-octobre, on va examiner cette loi intégrale qui a été poussée par 150 associations et qui mobilise tous les services de l'État. Mais ce qui était intéressant, c'est d'écouter aussi ce que disait le maire de Florence, la ville où habitait la commune, où habitait Liana dans le Gers. Voilà ce qu'il disait hier sur BFM TV.
Aujourd'hui, venir dire tel ou tel... Moi, je ne suis pas ministre, mais quand même, oui, un fusible, c'est pas la solution, on le sait très bien. Il faut qu'on aille dans le fond des choses.
Voilà, un fusible, c'est pas la solution. Vous savez, du coup, on se dit... ce qu'a montré le rapport, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements dans une chaîne. Quand il y a des dysfonctionnements dans une chaîne, tu as à la fois les systèmes et tu as la responsabilité individuelle. Ce qu'ont voulu montrer Gérald Darmanin et Laurent Nunes, le ministre de l'Intérieur, c'est que s'il y avait eu des fautes individuelles, il fallait qu'elles soient sanctionnées. C'est ce qui s'est passé avec la mutation d'office du directeur d'enquête et du commandant de compagnie de Condon. Ils sont placés dans des emplois hors exercice de la police judiciaire. Et puis c'est ce qu'on a fait aussi du côté du garde des Sceaux, puisque la substitut du parquet de Auch, on lui a retiré son habilitation à mener des enquêtes et traiter des dossiers s'agissant des mineurs. Alors est-ce que ces premières sanctions finalement sont suffisantes ou est-ce qu'on ce sont des fusibles? 32-16, Fatima, Zora et Didier. Fatima.
Le maire a totalement raison. On veut nous faire sur une chose, on ne va pas passer à autre chose. C'est-à-dire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire, oui, voilà, il y a eu un problème. On a trouvé le coupable. Dysfonctionnement d'un individu. Parce que quand on désigne un individu comme ça, ça permet de ne pas remettre en question le système et la structure. Et on voit bien que ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est notre fonctionnement normal qui est problématique. Il y a un problème structurel.
Oui, c'est
dans
ce qu'il dit d'ailleurs plus loin dans son raisonnement.
C'est systémique totalement. Et l'affaire Liana, si on veut qu'elle ne soit pas morte pour rien, il faut que ça change quelque chose. Et je peux vous assurer la détermination de celles, parce que beaucoup de femmes, celles qui se rassemblent tout à 19h tous les lundis, la détermination est là. Ce lundi-là, il faisait très chaud, les gens étaient là, on était là. Et donc, j'espère que ça va continuer comme ça et que la question de la pédocriminalité et de la justice face à la société entière, face à la pédocriminalité, j'espère qu'on ne va pas passer à autre chose. J'ai un peu peur parce qu'il y a les vacances. Il y avait le foot. Je me suis dit bon.
C'est pour ça que le Premier ministre a promis pour la rentrée l'examen de la loi intégrale Zora Bitan.
Mais
il a raison, le maire de Florence.
Non seulement il a raison, mais en plus la responsabilité politique est immense. Pourquoi? Parce que la responsabilité politique, elle vient du fait que doit faire le politique en premier. Ici, on a eu Françoise Laborde. Sur la maltraitance des enfants, on a eu Valérie Benaïm sur les enfants disparus. On a eu des gens qui ont fait des livres, des conférences sur l'ASE, sur l'inceste. C'est un phénomène extrêmement important, extrêmement violent et qui est dans notre société depuis toujours. La cause nationale n'a jamais été déclarée. C'est-à-dire que ça n'a jamais été mis sur la table dans une façon transversale, avec des directives simples et claires, détection dans les écoles. On a combien de cas, et je pense qu'ici le standard exploserait, d'enseignants qui détectent, d'une traversée administrative qui prend 1000 ans, 70 000 dossiers en souffrance. Ça veut dire que s'il n'y avait pas l'affaire Liana, ils y seraient encore. Donc quand on dit que le politique n'est pas responsable, il est au premier chef responsable de ne pas avoir donné une orientation politique qui incite, qui oblige, qui contraint toute la chaîne, qui évite qu'un enfant soit violé, maltraité, battu, affamé, torturé depuis des années. On place aujourd'hui des enfants dans des familles d'accueil où les enfants sont violés. Donc ce n'est pas un phénomène connu, on ne découvre pas. Donc la question de la responsabilité politique depuis encore là, une fois de plus, 40 ans, elle est immense. Et donc aujourd'hui, on cherche quelques fusibles qui, eux, finalement ont probablement fauté, c'est possible, les enquêtes le détermineront, mais c'est pas parce qu'on les aura, on aura prouvé qu'ils ont commis une faute, que la question de la maltraitance faite aux enfants, les violences sexuelles, l'inceste intrafamilial sera réglée. C'est un phénomène dont parlent énormément de gens, tout le monde peut y aller. Donc quand on met pas l'enfant en cause nationale durant tout un quinquennat, voire plusieurs quinquennats, parce que ça touche le parent, l'éducateur, l'enseignant, l'animateur, l'infirmière, le médecin, etc., etc. Il y a aujourd'hui des enfants qui meurent sous les coups des parents de tous les jours. Des enfants dans les incestes intrafamiliales. Les chiffres sont la honte pour la France.
160 000 enfants chaque année.
Voilà. Oui,
bien sûr, il y a ce
système. C'est le politique le responsable. Non, point final.
Non, mais d'accord. Mais il y a aussi, comme dans la chaîne, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ouais. C'est normal aussi de regarder de manière individuelle les erreurs
après,
qui ont été faites.
Est-ce que Emmanuel Macron a fait un discours en disant, écoutez,
mais on en a marre des discours.
Non mais pour.
Enfin, t'appelles à des discours, toi qui dis tout le temps des actes.
Non mais
t'appelles
pour,
à des discours.
Pour mettre le.
C'est
pour,
impossible
pour,
ça.
Pour considérer
les femmes étaient cause nationale. Hein.
Oui.
Normalement.
Oui.
Tu vois, donc
oui.
Le côté cause nationale.
On est à combien de féminicides aujourd'hui?
Oui, mais sur les enfants, il y avait le rapport de la civiste.
Pardon, mais je vous suis.
Je vais reprendre un truc. Ouais, je suis pas d'accord avec vous. Ouais. Tout ne peut pas être cause nationale tout le temps, quoi.
Bah, les enfants.
À un moment donné.
Les enfants.
Les gendarmes, les juges, ils ont deux bras. Il faut qu'ils fassent des priorités. Moi, je souligne quand même qu'il y a des sanctions individuelles. C'est suffisamment rare dans notre pays pour le souligner. Après, derrière ça, c'est pas une loi, une promesse de loi en septembre.
Ah si, la loi intégrale,
qui va changer. Non, mais la loi intégrale, ok, la loi intégrale.
Si,
sauf que, on vit dans un pays où les députés passent leur vie à voter des lois qui sont jamais promulguées, où les décrets d'application sont jamais pris. Voilà. Ça, c'est la France. J'étais la semaine dernière à l'Assemblée nationale, ils nous le disent tous. On passe notre vie à voter des lois qui sont jamais appliquées. Et le politique qui vient sur les plateaux télé tel le Premier ministre, il nous fait croire que parce qu'il va avoir parlé d'un sujet, parce qu'il va avoir mis le dossier sur l'Assemblée nationale, le problème sera réglé. Le problème sera pas réglé pour autant. Je pense qu'il y a un problème structurel de moyens dans les tribunaux, dans les commissariats, autour
là,
de la sécurité.
Là, c'est pas une question de moyens.
Et les politiques.
Didier, le rapport montre que ce n'était pas une question de moyens du côté de.
Je te rappelle que j'ai commencé en disant voilà. Bravo à la sanction individuelle. Mais je pense quand même aussi que depuis quelques années, le politique a dit vous mettez le paquet, parce que c'est la vox populiste, vous mettez le paquet sur le trafic de stupes. Ben voilà, ils ont fait les priorités qu'on leur a demandées.
Ça tire encore tous les jours.
Moi, je pense que les trafiquants, les trafiquants de stupes, ils doivent se frotter les mains ces temps, en se disant tant qu'ils sont là-dessus, on va être tranquille.
Les violences faites aux enfants, c'est la honte française. Mais quand on voit ce que prennent les pédocriminels, quand on voit ce que prennent les mecs dans les familles, dans
l'inceste. Je suis d'accord avec toi, Zora.
Mais parce que t'as pas de directive claire. Si t'as une directive claire qui dit que toutes les violences faites aux enfants, soit sexuelle ou de maltraitance, elles sont punies très fortement et qu'on rigole pas, mais faut voir ce que les Français lisent et à quoi ils assistent. Ils assistent à des peines de sursis. Regardez l'affaire Liana, ça en est la démonstration.
Mais ne serait-ce que la communication du ministère de la Justice qui dit depuis qu'on a repris les 70 000 plaintes pas traitées, là, en 15 jours, on a incarcéré 160 personnes.
160, j'ai vu 137 hier.
164, j'ai écouté, moi.
Bon, voilà.
On a incarcéré 164.
Ah bah ça alors
potentiel Barella quand même, hein, c'est ça hein, qu'on vient de faire là.
Voilà.
Parce que on a remis le dossier sur la pile. Mais
si
je pense que du coup les dossiers qui sont sous la pile, Zora, ils sont bien tranquilles.
Et les victimes,
quoi.
Voilà. Et les victimes, et ces enfants.
Les mecs qui viennent voler du gasoil dans nos campagnes, je pense que eux, ils sont bien tranquilles. C'est pas la peine qu'on aille porter plainte.
Non, mais tu fais trois posts Facebook, disait l'agriculteur, t'es convoqué dans le Gers dans la minute qui suit.
Mais enfin, l'agriculteur qui fait les posts Facebook, il a pas rien fait non plus.
D'accord.
Et c'est sûr que là-bas dans le Gers, ils avaient des instructions pour mettre. Pour faire de la répression sur les gens qui avaient foutu le bordel sur la DNC. C'est sûr que c'est ce qui s'est passé cet hiver dans le Gers.
Voilà.
Ça,
et donc, comment tu peux ne
pas. Candelon, il est pas vierge de tout reproche, hein. On est d'accord.
Et hier ou avant-hier, sur votre antenne, Abel rappelait quelque chose d'essentiel.
Abel Bouilly, notre GG éducateur.
On parle pas souvent avec cet angle-là. C'est la question des réseaux aussi pédocriminels.
Mais oui.
Parce que très souvent, on parle d'une affaire pédocriminelle comme si on avait un individu isolé. Mais la question des réseaux, de la même manière que pour l'affaire Gisèle Pelicot, après, on avait vu qu'il y avait des réseaux sur Telegram où des gens se donnaient des astuces pour endormir.
Tu vas pas me dire qu'on peut pas récupérer les adresses de tout le monde, là.
Donc il y a aussi cette question-là, et au-delà de ça, pourquoi c'est essentiel la question de l'enfant ? C'est une question aussi de sécurité, c'est un cercle vicieux. L'enfant qui est agressé et qui lui-même peut devenir la victime qui devient bourreau à son tour, ça veut dire c'est quel avenir on veut pour notre société ? Moi je veux, on dit la France est pédo et pédolande, cette réputation-là, la France est pédolande. J'aimerais, je l'ai dit ici, j'aimerais que des politiques s'engagent à dire que la France n'est plus pédolande, mais qu'ils s'engagent avec des actions concrètes.
Malheureusement,
jusqu'à présent, on avait la libération de la parole. Moi, je veux aller plus loin que la libération de la parole.
Malheureusement,
je veux une écoute active.
L'affaire du périscolaire.
Regardez la ville de Paris. La ville de Paris, ça devrait être un scandale, mais H24, c'est hallucinant. Non, des enfants, mais regardez, des animateurs mutés, mis au vert, etc.
Des élus parisiens qui viennent là, à ma place, dire on a tout bien fait. Quoi.
Ouais, voilà.
C'est quand même un scandale.
On a Olivier qui va en discuter avec les GG. Olivier de l'Hérault. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Vous avez entendu, je voulais qu'on écoute le maire de Florence qui dit, bon voilà, il y a des fusibles, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Olivier, Alain?
Mais je suis entièrement d'accord. Donc on a puni trois personnes, enfin punition, bon on a sanctionné trois personnes, mais demain, qu'est-ce qui change en fait demain?
Ben oui.
À l'heure actuelle, il n'y a rien. Il n'y a pas de moyens complémentaires. Alors là, il y a des erreurs personnelles, mais il n'y a pas de moyens complémentaires pour la justice. Ils seront toujours en manque de magistrats. Il n'y a pas de gendarmes ou de policiers en plus pour traiter toutes ces enquêtes. Alors oui, c'est sûr, on va me dire, plus il y a de gendarmes, mais plus il y aura d'enquêtes. Bien sûr, mais... Il faut qu'il y ait plus d'enquêtes, il faut qu'il y ait plus de places de prison et qu'on les mette tous au trou, clairement, et que ces gens soient punis, ces monstres-là, qu'ils aillent en prison ad vitam aeternam, et surtout qu'on ne les remette pas en dehors de la société.
Surtout qu'en plus, ce qui est terrible dans cette affaire, Olivier, souvenez-vous que même les Américains avaient signalé Jérôme Barella via les consultations, vous savez, des sites pédopornographiques. Donc même ça, on n'en a pas tenu compte. Vous voyez la question du fichier, de savoir... est-ce que les élus, ceux qui sont à la tête des écoles ou qui embauchent doivent consulter le fichier public? Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut avancer très rapidement, effectivement, au nom de la protection de nos enfants,
Mais
Olivier.
Vous vous souvenez que les Américains, ils avaient aussi prévenu pour une personne, pour l'affaire Epstein. On avait parlé de, comment il s'appelle? Justement, il y avait un homme qui travaillait, c'était
au
Quai d'Orsay.
Oui.
Voilà. Et ils avaient aussi prévenu. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On l'avait protégé. C'est que le pire, c'est que c'est pas qu'on lutte, c'est même pas la question de la lutte contre la pédocriminalité, c'est qu'on protège les pédocriminels à certains moments. Je suis désolée.
Il a présenté ses excuses, Gérald Darmanin, au nom de la justice.
Hein, c'est bien, il s'excuse et il fait rien derrière. Non mais stop, halte au feu. Quoi. Enfin, au bout d'un moment, il a les moyens.
Cette loi intégrale, elle a été proposée par
150 associations.
Par 150 associations, mais ça fait un moment qu'elle a été proposée.
Ça va changer des choses.
C'est pour ça, faut y aller.
Ça va changer des choses quand elle s'appliquera, Zora.
Oui, c'est ça.
Le discours du Parlement.
Oui, il a raison. Il a raison, Olivier. C'est derrière quel sera le suivi, quel sera le moyen.
Exactement.
Qu'est-ce qui change dans la chaîne administrative.
Promulguer et mettre les moyens en face des actions.
Allez-y, Olivier,
Un petit chiffre rapidement, parce que j'aime bien regarder les chiffres. La France, au niveau européen, on est classé 20e sur 27 en nombre de magistrats en Europe.
Et de procureurs, oui, c'est vrai. Voilà. Vous avez raison.
Donc, par habitant. par habitant, tout à fait. Donc, faut pas se plaindre. C'est les chiffres. On n'a pas.
Mais c'est un choix politique, ça, Olivier.
Et bien
c'est un
sûr.
Choix politique. Point.
Donc, faut changer tout ça. Voilà.
Voilà.
Une petite remise à zéro, on balaye tout, puis on fait du neuf.
Mais parce qu'on ne fait pas de la politique, ils font de la réaction. Vous savez que l'expression la plus utilisée dans les médias, là, ces dernières années, c'est, il y a un classement comme ça, j'ai vu ça, c'est sous le choc.
Oui.
On est sous le choc. C'est quand même, ça dit beaucoup sur notre époque. On est là, on va être sous le choc. Il y a des réactions, l'opinion, on regarde, tiens. Est-ce que les gens râlent? Et là, les politiques, ils se disent, ah oui, je vais construire mon image, je vais bien réagir, je vais faire semblant, petite formule et tout ça. Et après, on passe à autre chose.
On passe au deuxième sous le choc.
C'est ça. Mais sauf que, il y a plein de gens, j'en fais partie et je pense que je ne suis pas la seule, je ne passe pas d'un choc à un autre. Je suis encore choquée par l'histoire de Lola. La petite Lola, je suis encore choquée. Oui. J'ai lu en détail.
Il faut rappeler ce que c'est, l'affaire Lola.
Lola
qui a été tuée par une femme qui s'est
tuée et violée avant. Ouais. Il y avait une agression sexuelle par une personne qui ne devait pas être là en plus.
Oui, et qui était dérangée psychiatriquement. Et puis il y a Elias, le jeune Elias aussi.
Il y a toutes ces choses-là où on passe d'un viol à un autre, d'une agression sexuelle à un autre. On accumule les noms. Pour les politiques, c'est un nom après l'autre. Mais nous, c'est comme autant d'enfants
Olivier,
qu'on perd. Vous
merci.
Voyez, c'est pas simplement les enfants des autres.
Bien sûr.
Moi, je ne raisonne pas en enfants des autres.
Merci
les
d'avoir été
autres,
avec nous, Olivier.
Merci à vous.
Le problème, c'est il y aura la loi. Ensuite, on verra la loi intégrale. On verra quels sont les débats, si elle est appliquée. Puis, n'oubliez pas qu'à partir de septembre, on rentrera en campagne pour l'élection présidentielle. Il ne va pas se passer grand-chose au Parlement, qui, je
il
le rappelle,
la
n'a pas de majorité non plus. Sanctionnés, est-ce que pour vous, les sanctionnés dans l'affaire Liana sont de simples fusibles?
Rien fait.
Oui ou non, vous mettez oui. Merci à 91%. Dans un instant, 17% des collégiens ne savent pas nager. On a 42 noyades là aujourd'hui. Alors il y a l'imprudence, il y a ceux qui vont dans des endroits où ils ne doivent pas aller, où il y a marqué baignade non surveillée. Mais ce dont on s'aperçoit à travers ces drames, c'est qu'aujourd'hui il y a quasiment 20% un enfant sur 5 finalement qui ne sait pas nager ou ne sait pas correctement nager. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit lancer un grand plan natation? 32-16 pour en discuter avec les GG. Quelles en sont les raisons? Vous venez en parler avec nous.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, avec vous bien sûr sur RMC, RMC Story. C'est vous qui prenez la parole, c'est vous qui intervenez, c'est vous qui débattez avec les grandes gueules. Aujourd'hui, Didier Giraud, Fatima Hidbounois et Zora Bitant, Zora qui est intervenante en insertion professionnelle, Didier Giraud, éleveur de bovins, et Fatima Hidbounois, prof de français. On va revenir aux discussions sur la canicule et Dieu sait qu'il y a des sujets qui tournent autour de l'impact de cette forte chaleur. Et là, d'après les météorologues, on va avoir une petite accalmie et ça va repartir ensuite.
Oh non.
Si, ça va repartir ensuite et ça peut aller jusqu'à mi-juillet. Tu sais, on va avoir des phases.
Toi, tu connais le temps de mi-juillet, t'es trop fort, toi.
Les météorologues.
Dans tous les cas, celle-là, ça fait
formidable.
Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'elle est prévue.
Ouais.
Dans son intensité, quasiment à 2-3 degrés près. Hein. On va s'intéresser maintenant aux noyades. C'est vrai qu'on a la musique du Grand Bleu, le son d'un dauphin et c'est celui de Flipper le dauphin. On pourrait penser que, comme ça, le sujet ne fait pas sourire. La noyade, effectivement, quand on en a 42 en l'espace de 5 jours. Alors, il y a, par imprudence, les gens qui sont alcoolisés et qui se foutent tout de suite à l'eau. Il y a ceux qui sont aussi dans des coins où ils ne devraient pas aller parce que ce n'est pas surveillé. Et puis, il y a le constat global à faire aujourd'hui sur le fait que, quand on regarde précisément, on a 17% de jeunes, de collégiens qui ne savent pas nager ou qui ne savent pas bien nager. Or, j'ai regardé, normalement, l'enseignement de la natation. Il est obligatoire, hein, l'enseignement de la natation, hein, ouais. Dès le primaire jusqu'à la fin du collège. Et puis après, quand tu passes le bac, tu as tes épreuves d'éducation physique et sportive et tu as notamment la natation. Moi, je me souviens, j'avais pris la natation. Alors, est-ce qu'on doit lancer un grand plan natation? Ce que racontent des profs, c'est que souvent des profs d'éducation physique et sportive, la natation, c'est le moment où tu as presque le plus de certificats, de dire ah ben je peux voilà. pas, je peux pas y aller, hein, j'y vais pas, ah ben non, c'est ça, la natation, c'est pas obligatoire, et du coup on n'insiste pas, si tu veux. Bah c'est le problème, c'est Julien qui va en parler avec nous. Bonjour Julien.
Oui, bonjour toute l'équipe. Bonjour.
Vous vouliez réagir tout de suite, Julien, pourquoi sur la natation et un grand plan natation, ça vous paraît une bonne idée ou pas?
Ah bah moi, pour moi, ce serait une bonne idée. C'est juste que bah, j'ai un exemple. Moi, c'est ma fille qui est en CE2, qui finit le CE2 cette année. Elle n'a pas eu de sport quasiment depuis qu'elle est rentrée en CP.
Pourquoi?
Donc, elle n'a jamais été en piscine ou quoi que ce soit. Parce que sa maîtresse a déclaré qu'elle n'aimait pas le sport. Donc, elle ne rentrerait pas faire.
Mais attendez, je comprends pas, c'est obligatoire.
C'est un programme. C'est obligatoire. Ouais, c'est un programme. Mais on a beau saisir le recteur ou quoi que ce soit, ça bouge pas.
Et donc votre fille, du coup, n'a pas eu de sport du tout et encore moins de cours de natation.
Nous, à côté, parce qu'on l'inscrit à des activités, on l'emmène à la piscine, nous. Mais en tout cas, via l'école, pas du tout. Et tous les parents ne sont pas forcément aussi impliqués. Moi, c'est ça qui me...
Je comprends effectivement le cas de Julien qui n'a pas eu de sport du tout. Fatima, alors sur la natation. Et merci Julien d'avoir été dans les GG. J'espère que du coup, tiens, vous voulez donner le nom de l'école, pas de la prof, mais pour que ça attire un peu l'attention.
Le mouvement scolaire de Reims, hein, vous savez, il y a des soucis partout. La même ville de Reims, ils ont ouvert une magnifique piscine, UCPA, je sais pas quoi là, avec du carrelage de cuisine. Il y a un record d'entorse, les écoles veulent même plus venir.
Parce que les gamins glissent, c'est ça.
Et ça, c'est courant, c'est très courant. C'est très courant.
Il vient de l'inaugurer il y a quoi, il y a 2 ans à tout casser.
Mais c'est très courant.
Je jure, les branquignoles.
Voilà,
c'est pas vrai. Merci Julien d'avoir été dans les journées.
Des trucs comme ça, j'aimerais qu'on réépluche les appels d'offres.
Ouais, c'est ça, ouais.
Moi, j'aimerais bien que la brigade financière réépluche les appels d'offres sur ces trucs-là.
Non, mais c'est
là,
pas ça. Tu
là, il y a
piscine.
Des trucs là.
Non,
là, il y a
les
des...
abords de ça. La piscine sont c'est... pas antidérapants, ça craint quoi.
Je pense que c'est simplement.
Il y a bien un architecte. Enfin, dans la France, des normes. Je suis désolé. Dans la France des normes, il y a des gens qui sont passés au travers les mailles.
Ou simplement on a choisi le moins cher et le moins cher, il est antidérapant. Allons-y. Alors Fatima, tes gamins dans ton collège, ils vont nager?
En tout cas, oui. Normalement, enfin c'est déjà le cas parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on se tourne vers l'éducation nationale pour dire alors régler notre problème à la racine. Sans donner les moyens de le faire. Mais là, le savoir nager, vous avez vu, on a savoir lire, écrire, compter. Savoir nager, ça fait partie des compétences qui doivent être normalement. Les enfants ont des cours ils doivent aller à la piscine, des cours de natation. Effectivement, le problème, alors, soit l'école n'a pas de piscine. Donc, on partage avec la ville, par exemple, et donc ils doivent se partager. C'est tout un truc pour avoir
des bons créneaux.
Alors, il y a toute cette guerre de créneaux, première chose. La deuxième chose qui arrive souvent, je le vois, mais c'est surtout à l'école primaire, c'est que finalement, ils nagent très peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps consacré à la piscine, mais le temps d'accompagner les enfants, surtout si la piscine est loin. Donc, ils vont jusqu'à la piscine. De déshabiller tout le monde, vous savez, c'est un peu long.
Tu décris l'urbain, mais imagine en rural.
Complètement. Finalement, il reste peu de temps dans l'eau. Et comme ils sont beaucoup, c'est pas le même accompagnement qu'un cours individuel. Parce que vous voyez, pour vraiment apprendre à nager, c'est pour peu qu'il y ait des blocages, c'est quand même quelque chose de
au niveau de la pudeur, c'est ça.
Des blocages. Que la pudeur. Ah oui, il y a aussi ça, mais ça, c'est plus tard.
D'accord.
C'est-à-dire les petits. Les petits n'ont pas peur la plupart du temps, sauf si on leur a transmis ces peurs-là. Donc plus on le fait tôt, mieux c'est. Après, à l'adolescence, il y a effectivement la question de la pudeur, le rapport au corps. Si t'as des garçons dans la classe qui se moquent, parce que c'est souvent les garçons qui se moquent, ou des cas de harcèlement liés au corps. Voyez le petit à qui on dit « t'es gros » ou à la fille à qui on dit « t'es grosse » quand elle est habillée. Je peux vous assurer qu'effectivement, elle va chercher le petit certificat médical pour dire « je suis malade ».
Elle est allergique au chlore, celle-là.
Elle a peur d'être vue en maillot de bain. Un maillot de bain, une pièce. Et ça, effectivement, on le néglige. Après, les professeurs de sport, franchement, dans leur même par rapport aux professeurs de français, moi je trouve que la formation des professeurs de sport est plus complète que la nôtre, parce que eux ne font pas semblant d'avoir un cerveau sur une table. C'est-à-dire que nous, on parle de l'enfant comme si c'était un cerveau sur une table, alors qu'effectivement, pour le PS, ils parlent de tout ça, du rapport au corps, de l'adolescence, de plein de choses. Donc normalement, ils sont aussi armés pour aider les enfants, accompagner les enfants. Mais c'est essentiel.
Mais tu sais nager, Fatima, ou pas?
Eh ben non. Justement.
Mais pourquoi t'as pas appris à nager?
Parce que j'ai très peur. J'ai très peur, j'ai pas appris petite. Et c'est vrai que c'est là.
Non, tu veux, j'étais dans la. Non, ça, c'est non, pas.
Mais attends,
non,
la Vienne a 7 ans, crac.
On m'a fait ça
à l'école.
Alors, bah, si, j'ai le souvenir à l'école où justement la prof avait poussé comme ça, mais ça, je peux vous assurer que ça m'a fait.
C'est ça, t'avais une dispense au clope.
Non, non, si tu sais, avant, on m'a poussé comme ça pour apprendre. Ben, je peux vous assurer que ça m'a bien bloqué. En revanche, c'est pas parce que je ne sais pas nager que je ne veux pas que mes enfants, que je ne considère pas que c'est.
Ils savent nager, tes enfants?
Ah, mais au contraire, dès très, très, très petits, c'était une priorité.
Et pourquoi tu t'y mets maintenant? Non.
Hein?
Pourquoi tu ne t'y mets pas maintenant?
J'ai peur toujours. J'ai très peur.
T'as essayé dans une piscine de vin? C'est mieux, ça marche.
Pourquoi?
Ben, t'as plus peur de l'eau.
De l'eau très salée. Non, non, c'est un vrai blocage.
Non, mais attends. Blocage.
Rien que d'en parler, tu vois, je sens mon cœur s'accélérer et tout. J'ai très peur pour de
la
vrai.
Mais je veux dire, quand t'es avec tes enfants au bord de l'eau, à la mer, j'imagine que tu mets les pieds dans l'eau, tu vas jusqu'aux genoux,
mais
t'es avec
eux. J'ai voulu très vite qu'ils apprennent à nager parce que je me suis dit, mais mon Dieu, je pourrais pas les sauver, il faut que ce soit des vrais petits poissons. Donc très tôt, j'ai payé des cours pour qu'ils apprennent à nager.
Pourquoi tu les as pas pris en même temps? Pourquoi tu n'as pas pris les cours en même temps?
Parce que c'est compliqué de
20 ans. Zora, toi, tu nous l'avais raconté, tu as appris à nager à 45 ans ou 40 ans, je sais pas.
Je suis très admirative de Zora. J'ai suivi, je me suis dit, j'avais même pris
les coordonnées.
Quand elle avait commencé. Mais raconte-toi.
Moi, je rêvais de nager. Ça a toujours été un rêve et j'ai eu la phobie de l'eau petite. On m'a poussée dans l'eau, donc après, on reste bloqué. Ouais. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il y avait un stage de natation. J'y suis allée. Vraiment des gens spécialisés dans la phobie de l'eau. C'est pas le maître nageur qui est en haut dans son siège là-bas et qui dit plonge. Et tu lui dis mais non, même pas en rêve. J'ai tellement la trouille que voilà. Et en fait, ils travaillent sur la peur. Ils travaillent pas sur. Ouais. En fait, finalement, tout le monde flotte. En fait. Ouais. Tu travailles sur la peur. Et moi, j'ai appris à nager. Mais quel bonheur. Mais ça m'a changé ma vie, quoi. Ça m'a changé ma vie. Parce que t'as des enfants, t'es au bord de l'eau, eux, ils nagent, et puis toi, t'es sur le sable ou sur la serviette.
T'as appris à nager en combien de temps?
En un week-end. C'est-à-dire que tu repars, tu flottes, quoi. Et voilà. Et après, tu peux continuer à apprendre des nages.
Je suis complètement d'accord avec le cheminement que vous avez fait. Moi, c'est pas, enfin, l'école ne peut pas tout. Non. C'est une connerie d'avoir mis ça dans l'école.
Je dis pas que l'école. Ah
non, ça fait partie de l'éducation.
En milieu rural, aujourd'hui, la piscine, elle est à 40 minutes.
Ils sont trop nombreux.
Donc, 40 minutes aller-retour, voilà, les gamins, ils y vont plus.
Il y a la question des installations.
Et je pense que c'est d'abord aux parents d'en faire une responsabilité. Oui. Dans tous ces gamins qui se sont noyés ces temps, c'est une responsabilité des parents. Et pour preuve, alors, chez nous, il y a une histoire familiale. Tu vas à la pêche tout seul quand tu sais nager. Voilà. Les garçons qui voulaient aller à la pêche depuis mon père et mon grand-père, si pour aller à la pêche tout seul, tu dois savoir nager. Voilà. C'est comme ça que mon fils y a été très tôt. Et moi, j'ai payé des cours de baby nageur quand ma petite fille est née. J'ai payé à ma petite fille. C'était son cadeau de naissance, des cours de baby nageur. Parce que je pense que cette phobie que vous décrivez de l'eau, elle est complètement annihilée s'il y a eu contact avec l'eau depuis tout petit. Depuis tout petit. Et je pense que le bébé nageur, là où ça existe, c'est formidable et tous les parents devraient faire ça. Et je pense que c'est une responsabilité individuelle des parents. T'as peur que tes enfants se fassent violer dans le métro. T'y peux pas grand chose. T'essayes de contrôler leur vie là-dessus. Mais si t'as peur que tes enfants se noient, qui est une peur à peu près la même, c'est facile à résoudre, quoi. Tu peux agir là-dessus, quoi.
D'accord.
Après, c'est la responsabilité à tes enfants. Ça coûte ce que ça coûte.
Mais on a quand même progressé parce qu'il y a une époque où quasiment c'était un chiffre beaucoup plus important.
Hein. Et ça annule pas complètement le risque parce que par exemple à l'adolescence, parce qu'il y a des enfants qui se noient parce qu'ils ne savent pas nager, il y a des très bons nageurs ados qui se noient parce qu'ils n'ont pas pas conscience du risque, ou alors ils se sentent justement plus parce fort, qu'ils nagent bien, ils se sentent forts et ils vont prendre des risques.
Moi qui suis bon nageur depuis gamin, ça m'est arrivé là j'arrivant de me faire prendre parce que je vais aller jusqu'à la bouée là-bas et puis de se dire putain tu peines à revenir.
Dans tous les cas, ça vous fait beaucoup réagir ces noyades et une partie des jeunes qui ne savent pas nager. On en parlera avec Stéphanie qui est maître nageur. Elle voit le niveau de natation des jeunes aujourd'hui qui est, dit-elle, de plus en plus mauvais. On en parlera. On aura Sébastien aussi du côté du Nord, qui est enseignant en éducation physique et sportive. Et lui aussi, il a observé la situation. Donc, est-ce qu'il faut lancer un grand plan natation suite à ces noyades en série? Il y a le facteur imprudence aussi. C'est-à-dire ceux qui sont alcoolisés, qui ont très chaud, qui vont dans des endroits où il y a des courants, où malheureusement, ils se retrouvent coincés. Et puis ensuite, ils s'épuisent, ils n'arrivent plus à sortir.
Dangereux de se baigner dans les fleuves, hein.
Mais justement, on en parle, canicule, noyade en série, une partie de la France qui ne sait pas nager. Vous venez en discuter avec nous, il est 11h25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Qu'est-ce que vous nagez bien cher?
Oh là!
Ah, ça, c'est la 7e compagnie, ah ouais, Tassin, Chaudard et Pithiviers, ouais. La fameuse scène. Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef. Et puis la fameuse clé anglaise, vous envoyez la clé à Molette, là, qui atterrit dans la rivière. C'est un grand moment avec Pierre Mondi qui apprend à, et qui montre à Aldo Machione et à Jean Lefebvre comment tu nages à l'indienne. C'est Sébastien qui est avec nous, Sébastien Dunord. Merci d'avoir patienté, Sébastien. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites, Sébastien? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il faudrait lancer un grand plan natation pour réapprendre à tout le monde et à ceux qui ne savent pas en particulier? Dites-moi.
Ah, est-ce qu'il faut le lancer? C'est aux politiques de se poser la question. Moi, justement, je pense que le problème, c'est que c'est un problème multifactoriel, mais le premier, c'est un problème de politique de la ville. J'ai travaillé dans des établissements scolaire, où pour avoir une heure de natation en sixième, fallait payer un couloir de nage, on pouvait pas prendre tel créneau, parce que là, il y a le public qui vient, etc.
Ça manque d'installation, c'est ça?
Pas forcément, parce que moi, là, par contre, je travaille dans un établissement, maintenant, où la ville a décidé de mettre les moyens, et dès la maternelle, toutes les classes vont quasiment toute l'année en natation. Et puis, là, je me retrouve, par contre, dans cet établissement, sur une classe de sixième, j'ai peut-être deux, trois non-nageurs parce qu'ils viennent d'arriver, ou qui étaient dans une autre ville.
On a perdu Sébastien. On va aller voir Stéphanie, qui est en Haute-Savoie. Bonjour, Stéphanie.
Oui, bonjour.
Donc, maître nageur, qu'est-ce que vous en dites, Stéphanie, alors? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous constatez auprès des jeunes?
Alors, ça fait 25 ans que je fais ce métier, donc je vois vraiment une grosse baisse de niveau, ça c'est clair. Après, je suis plutôt spécialiste dans la phobie de l'eau. Donc c'est vraiment ce qui...
Ah,
ce qui
on va m'intéresse. Vous envoyer Fatima.
Ouais. Ouais. Après, vous aviez raison quand vous disiez que c'est vraiment d'abord aux parents de les emmener très très tôt. C'est vraiment, ça change tout, c'est le secret.
Ça s'appelle l'éducation et ça en fait partie,
c'est
quoi.
Ça.
Du coup.
Alors c'est vrai que nous on propose des bébés nageurs, c'est génial, mais même si vous n'avez pas ça chez vous, c'est vrai que rien que le fait de l'emmener dans une grande piscine, jouer avec, l'éclabousser sans qu'il y ait de soucis, c'est vraiment la base. Et nous on voit vraiment les enfants qu'on fait cette activité dès le plus jeune âge et les autres. Qui n'ont jamais mis un pied dans l'eau, qui arrivent en sixième, et qui n'ont jamais mis un pied dans l'eau. Ça, c'est un gros souci. Après, nous, en piscine, c'est vrai qu'on a les scolaires, on a beaucoup d'écoles de natation. On en propose 16 par semaine pour 10 enfants, ce qui fait 160 enfants quand même. Mais aujourd'hui encore, on en refuse. On n'a pas de la place pour tout le monde.
Oui, c'est vrai. Ça manque de place.
Mais comment vous expliquez
il y a aussi derrière ça
le niveau de natation,
de normes, non?
Attendez, le niveau des jeunes est de pire en pire. Comment vous l'expliquez, ça? Pourquoi?
Alors déjà, il y a eu l'effet Covid, ça c'est sûr. On a des enfants qui avaient 6 ans à l'époque, 5-6 ans, où c'est vraiment là la grosse marche d'apprentissage de la natation. Qui aujourd'hui se retrouvent en CM2, 6e, et qu'ont du retard, je pense, par rapport à d'autres qui ont pu aller à la piscine toute l'année avec l'école.
Ouais.
Et puis quand même des parents, j'ai l'impression qu'on s'investit moins par rapport à ça. Moi, vous voyez, ma mère était aquaphobe. Aujourd'hui, je suis maître nageure. Voilà, elle m'a toujours mis à la natation. Elle voulait surtout pas que je sois comme elle.
Et puis peut-être qu'on considère ça. Qu'aujourd'hui, savoir nager, c'est beaucoup moins important qu'avant. Je sais pas.
Par rapport à d'autres sports, peut-être, par rapport à d'autres pratiques sportives. Nous éclairer, Stéphanie, parce que moi, qui vis en milieu rural, je vois aussi des piscines qui était ouvert que au printemps, l'été, qui ferme à cause de problèmes de normes. Et ça, c'est un vrai frein en milieu rural parce que la piscine s'éloignant, les créneaux horaires, comme vous l'avez dit, ça coûte un bras pour louer des bus pour emmener les gamins et les créneaux horaires se rétrécissent. Est-ce qu'il y a de vrais changements de normes des piscines assez régulièrement?
Des changements de normes, non. Non, elles ont toujours été...
Alors pourquoi certaines piscines ferment?
Est-ce que la piscine est obligatoire à l'école?
Ah oui.
Alors oui, c'est obligatoire, ouais.
Ah d'accord.
Ouais. Après, il faut leur trouver des créneaux. Nous, on est très très serrés. J'ai vu aussi l'évolution du métier. On nous demande aussi de faire beaucoup plus qu'avant. Aquagym, aquabike, aquacardio, aquatonique, aquamachin, au détriment des écoles de natation, justement, qui est notre premier...
Des scolaires, au détriment des scolaires.
Au détriment, ou des enfants qui veulent prendre des cours en groupe, des cours particuliers. voilà, des parents qui voudraient les inscrire, mais il n'y a plus de créneaux. Ouais.
Oui, Stéphanie, je vous remercie. Ouais. Vous avez alerté justement sur le problème aujourd'hui de trouver les créneaux horaires. On a justement Alexia qui va intervenir, qui est du côté du Var. Bonjour Alexia.
Bonjour.
Bonjour, parce que Bonjour. Le Var est un des départements où il y a le plus de noyades.
Absolument.
Oh. Comment vous l'expliquez, Alexia? C'est de l'imprudence, c'est quoi?
Ben oui, c'est de la prudence éventuellement, puisque on est quand même le département donc qui a le plus de noyades. On a la proximité immédiate à la mer. Il y a, je crois, le plus grand nombre de piscines qui ressortent.
Ouais, c'est ça. Il y a le ratio plus les lacs
par habitant,
plus les lacs aussi, les points d'eau dans l'arrière-pays et autres.
À mon avis, il y a plus de piscines dans le Var que dans le Pas-de-Calais aussi, quand même.
Privé, bien sûr. Oui, oui.
Donc depuis quelques années, je crois que c'est la préfecture qui a mis en place, donc à partir de la moyenne section, donc les enfants qui ont 4-5 ans, l'obligation de, je crois, 12 ou 13 semaines de cours de piscine.
C'est bien.
Pour justement pallier à ça. Donc tous les enfants, à partir de cet âge-là, vont un trimestre entier à la piscine, une fois par semaine ou tous les jours. Ça dépend un petit peu de l'organisation de l'école.
Et quand on voit la vitesse à laquelle ils apprennent, les enfants, franchement...
Bah, c'est ça, je les accompagnais du coup, puisque j'ai passé les certifications pour pouvoir les accompagner à la piscine. Et en l'espace déjà de 2-3 séances, les petits sont capables de, bah, au moins de flotter, de pouvoir se déplacer dans l'eau.
Et ça, c'est une bonne chose. Bah, là, les pouvoirs publics ont pris leurs responsabilités, effectivement, sur la sensibilisation. Et ça, c'est plutôt pas mal, Alexia. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Puis après, il y a... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, parce que... tous les jeunes qui font des plongeons, qui font des sauts périlleux,
bah ça,
qui
tout,
vont
tout,
entre,
en a, hein.
qui
bien.
Vont entre copains parce que tu
il
fais
y en a
de l'Instagram,
qui
parce
savent
que
nager, hein, qui ont appris à nager à l'école là-dedans.
Tu t'amuses, mais ils vont dans des endroits où c'est interdit.
Eh oui.
Regarde du côté du canal Saint-Martin, etc.
Oui.
Où tu as pas le droit. Tu les vois, ils sont sur les ponts, ils font des sauts, etc. Comment tu fais? T'envoies la marée chaussée, tu leur dis vous arrêtez alors qu'il fait 38 ou 40 degrés dehors. Là, ils prennent leurs responsabilités. Oui. Ceux qui vont dans les points d'eau, les bases nautiques,
mais là, l'État,
ou qui vont du côté de la Seine-et-Marne, où il y a des mini-plages, et normalement, tu n'as pas le droit de te baigner, mais il fait 40 degrés.
L'État, il est pour
rien. Et il y a marqué, l'endroit, il y a marqué baignade non surveillée.
Non, mais là, l'État, il est
non surveillé, ça ne veut pas dire que
tu
n'as pas le droit de te baigner.
Tu mets baignade non surveillée, tu te baignes, c'est ta propre responsabilité.
Bah, c'est ça.
La tienne ou avec celle de tes parents, mais l'État peut pas, il fait ce qu'il faut. Je veux dire, si on te dit que c'est baignade interdite, et que tu te noies parce qu'il y a un courant ou parce que l'endroit est pas du tout adapté, qu'il est dangereux et que tu y vas, ben tu n'y peux rien. C'est enfin là pour le coup l'État c'est pas son rôle quoi. Enfin
c'est la responsabilité individuelle et c'est l'imprudence
totale,
individuelle.
Mais totale,
quoi.
Mais totale.
Et c'est aussi certaines fois où sont les parents encore et toujours hein. Parce que là-dedans,
oui,
c'est des ados.
Mais
quand t'as des ados,
à 16-17 ans,
15-16 ans,
ils sortent pas avec leurs parents.
T'as
des ados, ils sortent pas avec les parents.
Et puis même la prise
bien
de
sûr,
risque,
ça
fait
pas.
Ouais, il y a plein d'ados de familles bien éduquées où il manque rien, ils sont bien élevés. Le gosse te dit à 16 ans, maman ou papa, je vais avec des potes me baigner. Fais attention, ok, d'accord. Et puis quand ils sont sur place, ils font les cons. Et puis t'es pas là.
Mais ça, bien sûr.
Tu vois, ça, c'est un...
C'est forcé que ça se passe comme ça.
On a Johan.
Mais
qui
du coup, si tu lui as donné les armes.
Normalement.
De savoir nager.
Regarde les cours.
De connaître une rivière.
Non, mais. Ouais.
Parce que c'est tout con, ça, mais les petits citadins, ils savent pas ça. Moi, j'ai appris, gamin. J'ai été pêcheur depuis que je suis apprendre la rivière et comprendre que là, faut pas aller se baigner là parce que là, il y a du courant, machin. Ouais. Moi, je suis né au bord de la Loire. Mais c'est une peur qui était comme la peur du loup quand on est gamin de se faire entraîner. Moi j'ai fait des cauchemars de se faire entraîner dans la Loire parce que les histoires de siphons dans la Loire, de sable mouvant, c'est des trucs qu'on raconte aux gamins pour pas qu'ils aillent se baigner. Et c'était une vraie peur. Et j'ai appris ça. Et à un moment donné, moi aujourd'hui, je peux aller me baigner dans la Loire sans problème. Je sais où je vais.
Mais
je trouve que c'est un espèce d'apprentissage qui n'existe plus, quoi.
Mais voilà. comme moi, ayant grandi au bord de l'eau à Nice, si tu veux, les parents, ils étaient tout le temps là à nous dire, dès qu'il y avait les premières chaleurs, vous sortez pas.
Oui.
Et puis ensuite, quand vous arrivez, vous mettez d'abord les pieds dans l'eau, tu prends l'eau,
tu te mouilles la nuque,
tu te mouilles le torse,
ouais.
Et si tu sens que c'est encore froid, t'attends 30 secondes, une minute, et tu avances tranquillement. Aujourd'hui, tu vois, et tu le vois sur les images,
ça
plein de gosses,
direct.
Ils sont là avec les potes, exactement, tu les
mais
vois, ils boivent des coups, etc.
Oui.
Et puis ensuite, allez, on y va, et ça plonge direct, et tu fais des hydrocutions, et derrière, t'es saisi et tu n'arrives plus à remonter.
C'est les accidents
et là, tu n'arrives plus à faire les mouvements.
Ça s'appelle
pour
les accidents de la vie.
Je voudrais qu'on en parle avec Johan. Johan, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Johan, dit les Vilaines du côté de Rennes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on doit s'inquiéter de ce, de ces noyades, de ces jeunes qui savent pas bien nager, dites-moi.
Oui, je pense qu'on doit s'inquiéter, mais il y a des choses à faire, parce que moi, je vais vous raconter quelque chose. Il y a quelques années, j'accompagnais ma fille à l'école en tant que parent d'élève. Il cherche toujours des parents d'élèves pour accompagner les enfants à la piscine. Et donc, j'ai fait ça avec mes deux enfants. Et à la piscine, en fait, les maîtres nageurs s'occupent de ceux qui savent déjà nager, qui nagent déjà très bien, sans doute pour les perfectionner, je ne sais pas. Et ceux qui ne savaient pas nager ou font peur de l'eau, hop, on les laisse aux parents d'élèves et à la maîtresse, et on gère ça dans le petit bassin, et puis voilà. Mais moi, je suis pas du tout formé à ça, et j'ai jamais compris. Je leur avais demandé pourquoi, c'est comme ça, et que les maîtres nageurs ne s'occupent pas de ceux qui ne savent pas nager ou qui ont peur. Eux, ils gardaient les meilleurs, et puis l'instit et moi.
Parce que faire un cours à des enfants qui ont peur de l'eau ou qui doivent apprendre à nager.
Ça demande des vraies compétences.
Ça demande une compétence.
Je suis pas formé.
Bien sûr.
Voilà, mais c'est pour ça que
Oui, mais Yoann, il a raison. Il y a un problème dans ces cas-là. L'enseignant, il doit s'occuper de ceux qui savent le moins bien nager.
C'est le contraire, justement.
On a Hervé. Reste avec nous, Yoann. On a Hervé qui est professeur des écoles du côté de la Seine-et-Marne. Bonjour, Hervé.
Bonjour les GG.
C'est obligatoire. Il y a un plan national natation qui existe, non?
Alors effectivement, c'est obligatoire. Ça a été érigé en priorité lors du mandat Macron précédent à cause des noyades justement. Et je suis très surpris de ce que dit Yoann. Alors après, il y a plein de cas particuliers qui peuvent exister, mais d'un point de vue général, les maîtres nageurs sont censés s'occuper des groupes les plus faibles, et on laisse aux enseignants qui sont pas forcément formés à apprendre à enseigner la natation.
Ouais.
On laisse aux enseignants les groupes les plus forts qui sont déjà dans l'aisance aquatique ou dans le savoir nager. Donc je suis assez surpris là-dessus, et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, puisque c'était la priorité du mandat précédent. Donc bon, il n'y a pas eu que des mauvaises choses de fait par le gouvernement actuel et les précédents, et ça, pour la peine, c'est quelque chose qui existe et toutes les communes sont censées le mettre en place. Et ça prend c'est 6 à 8 heures par an. Ça peut commencer en grande section de maternelle, en général ça commence au CP. C'est 6 à 8 heures dans l'eau. Hein, contrairement à ce que certains vont pouvoir dire, c'est dans l'eau, et ça prend une logistique énorme qui fait qu'en gros ça bouffe 2h30 de la journée, et qu'à la fin les gamins, si on a fait piscine le matin, à la fin l'après-midi ils sont KO, donc ça bouffe 2 semaines d'enseignement pédagogique pour 1 heure de natation. Après on va nous reprocher en plus de ça de pas leur avoir appris du français, sauf que le travail est fait à l'éducation nationale. Et oui, in fine, ce qu'il faut voir, c'est quel est le suivi à la maison entre les dispenses de nature infinies pour que les enfants n'aillent pas à la piscine, et puis après le fait
voire religieuse, vous pouvez le dire, Hervé, hein.
Ça existe, bien sûr, mais entre ça et le fait que les parents n'assurent pas le suivi, alors que quand on est membre d'une communauté d'agglomération, les places à la piscine, elles sont gratuites pour les enfants de moins de 10 ans, 12 ans, 11 ans,
les parents payent
2, 3, 4 euros. À un moment donné, c'est aussi aux parents de faire leur taf.
Mais oui.
Hervé, vous avez raison. C'est à chacun de prendre ses responsabilités. Merci, Hervé, d'avoir été avec nous. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, Laurent Jacobelli, le député Rassemblement National. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.